Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 12 avril 2024. Très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 12 avril 2024, vous l'avez vu, l'inflation. Aux États-Unis, ça repart à la hausse. Au Canada, on n'est pas trop sûr. Ça a baissé, mais on va voir les chiffres prochainement. Est-ce qu'on va avoir une inflation qui va repartir à la hausse? La Banque du Canada s'attend un peu à ça. C'est pour ça qu'elle a décidé de ne pas jouer dans son taux directeur tout de suite quand même. On nous a prévenu qu'il allait avoir des baisses dans les prochains mois. Est-ce que ça va être au mois de juin, au mois de juillet au Canada? Ça va être à suivre. On s'attend quand même, avec ces baisses de taux, à stimuler l'économie, parce que là, l'économie canadienne ne roule pas très, très, très rondement. On va le dire comme ça, aux États-Unis, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation en passant. L'inflation, quand ça s'amène, c'est parce que l'économie va bien. On parle de surchauffe. Dans le cas de l'économie américaine, on a mis beaucoup de bûches dans le foyer, beaucoup d'aides gouvernementales, les programmes notamment sur les programmes pour l'environnement, mais les voitures électriques, tout ça, il y a des milliards de dollars. Le gouvernement de Joe Biden a mis beaucoup, beaucoup d'incitatifs. Mais là, on est là-dedans. Au côté canadien, c'est plus tranquille. Donc, l'inflation, on pourrait s'attendre que ça monte. Moi, je ne m'attends pas à une grosse montée de l'inflation au Canada. Vous le voyez, les gens n'ont plus d'argent. Les gens sont très serrés. Il y en a beaucoup que les hypothèques ont monté de 15, 20. Il y en a, c'est 30 % en moyenne, là. Donc, quand tu renouvelles ton hypothèque à 30 % de plus, je pense que tu mets de côté peut-être des dépenses frivoles et tu essaies de jouer le jeu là, de façon de base, comme on dit. Donc, ça va être à suivre. Évidemment, une baisse de taux, là, vous allez voir, ça va te donner un coup. Les projets immobiliers, ça va repartir vers le haut. Donc, c'est intéressant. À ce niveau, les marchés boursiers aussi ont été ébranlés là, aux États-Unis. Mais est-ce que c'est depuis le début du mois d'avril, c'est un petit peu plus difficile à la bourse? Très volatile, donc c'est normal, ça a monté de quoi? 25 %, 28 %, 30 %, 32 %. Là, il fallait que ça se calme un peu. Donc, retour à la réalité. Là, on a les earnings season aussi, la saison des résultats financiers qui arrive à Wall Street. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Évidemment, il y a pour deux personnes optimistes, il y a deux personnes pessimistes. C'est assez dur là, d'avoir une idée tranchée. Je pense qu'il faut se faire une opinion de part et d'autre puis d'essayer de jouer dans le milieu. Là, c'est un peu ça qu'on voit. Donc, ça va être à surveiller. Les gens qui veulent s'abonner à l'infolettre financière, 4 $ par mois, une infolettre. Le forfait le plus populaire, je vais vous le dire, là, c'est 8 $ par mois. Vous avez 4 infolettes par mois. Il y a un forfait 80 $ aussi qui tire pas mal. Là. Beaucoup de gens qui sont abonnés. Et vous avez, vous ne me cassez pas la tête, là, pendant l'année au complet, vous recevez l'infolettre. 80 $, c'est 48 infolettes. J'ai un forfait à 50 $ aussi. Donc, voilà l'infolettre. Mes conférences. J'ai retravaillé mes conférences. Et là, ça boucle, là, sérieux. Le téléphone sonne. C'est le fun. Allez voir sur cachemireplus.com dans le même coin que l'infolettre financière. Les conférences sont là. Il y a une conférence sur un grand tour de l'économie, là. Qu'est-ce qui s'en vient en économie, tous les indicateurs. Québec, Canada, USA, monde, dans quoi on s'enligne vers 2025, la fin de l'année 2024-2025, les taux d'intérêt, les taux directeurs, le chômage, tout et tout. Toutes les données clés, là. Donc les organisations, vous voulez que j'aille vous voir? J'ai des forfaits 45 minutes, 60 minutes avec des périodes de questions. Et on peut jumeler ça là, à des angles morts selon votre industrie. Là. Il y a plusieurs packages. Je fais du panel aussi si vous avez besoin d'un panéliste. J'en fais aussi. Et j'ai aussi pour les écoles secondaires, les écoles, les cégeps, université, la peur de l'argent. Sérieux, il y a du monde qui a peur de l'argent. Il y a des gens qui commencent à faire une phobie sur l'argent. Et on décomplexe ça pendant la conférence. On donne des cons, on fait le tour, on parle avec les jeunes, c'est vraiment le fun. Et également, j'ai une conférence sur les NFT, crypto-monnaies. Je l'ai donné déjà dans des comités de retraite. Donner un enjeu, une espèce de grand tour là, de qu'est-ce que sont les crypto-monnaies, les NFT, le métavers, vers quoi on s'enligne avec ça. Donc, C'est les conférences qui sont les plus populaires. Sinon, si vous voulez embarquer dans le podcast comme annonceur, il y a de la place, mais ça joue serré. Là, le téléphone sonne, il y a du monde qui veut l'embarquer et c'est stimulant. Donc, tant mieux. Alors, communiquez avec nous si vous voulez embarquer. On va vous trouver une place. Certainement qu'on va vous trouver une place, mais je vous le dis, là, les annonceurs, ça se bouscule. Je ne me plaindrai pas de ça, jamais. Et vous le savez, moi, tout est gratuit, là. Mais quand même, qu'il y a des annonceurs qui viennent parce qu'il y a une communauté Cachemire et qu'il y a des retombées. Les annonceurs viennent et reviennent. Hein. Dans le cas de Mallette, Mallette, c'est un cabinet comptable partout au Québec. Mais Mallette, il était avec nous l'an passé puis il était avec nous il y a 2 ans. Donc, voilà, les annonceurs cette semaine, on en a plusieurs. Le Mallette, vous le voyez, vous pouvez entendre au début du podcast dans tous les segments Mallette. Mallette, c'est pas juste du cabinet comptable. Hein. Si vous êtes une entreprise, on fait des plans quinquennaux, des plans triennaux, de l'optimisation de processus, réseautage d'affaires, redressement d'entreprise, syndic, on a du notariat. On est, comme on dit, 360. On couvre tous les aspects pour les entrepreneurs. Donc, mallette.ca, même Mallette recrute. Vous cherchez un emploi en comptabilité. En plusieurs, écoutez, là, je pense qu'il y a plus de 200 postes disponibles sur le site de mallette.ca, allez voir ça. Donc, Mallette est avec nous. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Frédéric est avec nous depuis 3 ans dans le podcast Cachemire et il va faire pour vous ce que bien des conseillers financiers ne veulent pas faire. Là. Il va faire une analyse gratuite de votre portefeuille. Il va analyser ça. Si vous êtes perdu, vous êtes égaré, même pour les comptes d'entreprise, vous appelez Frédéric, vous prenez une rencontre par Zoom. Vous n'avez même pas à vous déplacer et il va analyser votre portefeuille. Il va vous faire un petit plan de match et si vous l'aimez, vous le prenez. D'ailleurs, les conseillers financiers, il y a des conseillers financiers qui ne prennent plus de clients en bas de 100 000 $. Si vous n'arrivez pas qu'à un portefeuille déjà ou des économies de 100 000 $, on ne vous prend pas, on vous met de côté, on vous envoie vers les robots advisors qu'ils appellent. Donc, c'est des conseillers robots. C'est pas très, très, très intéressant, mais Frédéric ne fait pas ça. Lui, il est ouvert. Il va vous donner une opinion, puis si vous l'aimez, vous le prenez, frédéricturcotte.com. Tout le SEO, c'est crucial. Bien, ProStar SEO est avec nous. Et ProStar SEO, gênez-vous pas, vous appelez Éric Saint-Cyr, président, puis il va analyser votre site web. Il va regarder les points faibles, les points forts. Il va vous faire un plan de match. Évidemment, Éric est assez direct dans la mesure où s'il voit qu'il n'y a pas rien à faire avec votre site web, c'est-à-dire que si vous vendez des produits qui ne peut pas, qui ne pense pas qu'il va être capable de vous donner un résultat, ben il va vous le dire. Il va dire, écoute, je ne perdrai pas mon temps avec toi. Mais par contre, la majorité des gens qui écoutent le podcast puis qui sont allés voir Eric sont très satisfaits. Et ils gèrent pas mal de sites web comme ça, dans le SEO, le Google Ads, toutes ces notions-là. Là. Google a tout refait hein, son algorithme au niveau du SEO. Et c'est quand même assez complexe là, comme mécanique. Il y a des mots-clés, puis il faut revenir à toi. Communiquer avec ProStar SEO, ils vont s'occuper de votre site web et ils vont faire en sorte que vous allez monter. Dans le référencement également, infobref.com est avec nous. Infobref, c'est une infolettre que vous pouvez recevoir chaque jour. Vous allez vous abonner sur infobref.com et vous allez recevoir l'infolettre. C'est une dizaine de petites nouvelles chaque jour. Et ça vous met quand même assez rapidement là, de ce qui se passe sur la planète. Oui, la planète nouvelle, mais la planète économie aussi. Donc, infobref.com est avec nous. Voilà plusieurs sujets cette semaine. Je regarde rapidement là, les sujets. Est-ce que l'inflation, et si l'inflation repartait vers le haut? On va parler de ça parce que ça inquiète beaucoup de monde. On va essayer de décortiquer pour vous là, qu'est-ce que ça peut signifier. Moi, je pense qu'au Canada, l'inflation n'ira pas très loin, puisque notre économie ne va pas très loin actuellement. Donc, c'est assez ça. Baisse de taux dès le mois de juin. Desjardins pense qu'il y aura des baisses dès le mois de juin. Donc, on va jaser de ça. Les hypothèques sur 30 ans qui sont de retour. C'était très difficile d'avoir une hypothèque sur 30 ans. Avant, c'était 40 ans au Canada. On a descendu ça à 35 ans, 30 ans, 25 ans. Et 30 ans était disponible pour les gens qui mettaient... qui mettait 20 % de cash. Mais là, on repart vers les 30 ans, donc on va parler de ça. La bourse, la saison des résultats arrive. Quoi penser de tout ça? L'or. L'or a explosé dans les dernières semaines. Est-ce que l'or pourrait atteindre les 2500 $? Oui, certainement prochainement, mais est-ce qu'elle pourrait atteindre les 3500 à suivre? Hydro-Québec. Hydro-Québec. parle de tarifs, traite les Québécois de notamment le ministre de l'Énergie, traite les Québécois de pas bons, dit qu'on va venir chercher de l'énergie dans vos voitures électriques, dans vos batteries, incroyable. Donc, on va jaser de Hydro-Québec. Est-ce que, un, hausse de tarifs salés, puis est-ce qu'on va encore rater la cible des prévisions? On va parler de ça. Bitcoin, le halving s'en vient. Prochain jour, quoi s'attendre? Et qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines? On va parler de ça également, les titres les plus performants à la bourse cette semaine. Deuxième partie, on a le conseiller financier Frédéric Turcotte. Est-ce qu'on doit investir dans les marchés boursiers actuellement? On montait beaucoup. Pourquoi on investirait là? Pourquoi pas attendre la fameuse drop de 20%? La fameuse drop qui n'arrivera jamais, là, d'ailleurs. Donc, on va parler de ça avec Frédéric. On parle également de NVIDIA, de JP Morgan, du grand patron là, qui a écrit une lettre sur l'économie américaine. Puis les meilleurs, les pires fonds négociés à la bourse. Voilà. Bonne écoute. L'inflation est loin d'être morte. Au contraire, et elle pourrait repartir à la hausse. On a eu les chiffres cette semaine de l'inflation aux États-Unis. Également, on a eu une position de la Banque du Canada, puisqu'on a eu un statu quo. Hein. La Banque du Canada a décidé de ne pas baisser ses taux, son taux directeur. Et on a eu quand même des indications. Et là, ce qu'on voit aux États-Unis, l'inflation repart vers le haut. Évidemment, l'économie américaine roule pas mal mieux que celle du Canada. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'aux États-Unis, oui, une économie qui roule à 3,3%, bien forcément, ça crée de la surchauffe. Et là, on le voit, on commence à le voir, l'inflation qui repart. On était à 3,1% aux États-Unis en janvier, février 3,2%, et là, 3,5%. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup affolé là, sur les marchés boursiers à la suite de cette nouvelle-là. Mais il y a d'autres indications qui... des indicateurs sur l'inflation, là, on peut tempérer cette hausse-là qui serait passagère, notamment liée au prix de l'essence. Mais du côté canadien, la Banque du Canada, ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'elle, bon, on n'a pas baissé les taux, on est on regarde beaucoup ce qui se voit, on est en attente là, de voir si l'inflation pourrait repartir, parce que l'inflation a surpris tout le monde au Canada. On est descendu à 2,8 en février. On va avoir les chiffres du mois de mars prochainement. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'inflation pourrait tourner entre 2,8-3%, 3,1% au Canada. Peut-être pour le mois d'avril, le mois de mai. Et peut-être que là, le mois de juin, on pourrait avoir une surprise ou à tout le moins, on pourrait avoir une espèce de chemin là, où là, on voit vraiment l'inflation descendre. Et là, c'est à partir de là que la Banque du Canada va se faire une tête. Est-ce qu'on descend ou pas les taux directeurs? Mais l'inflation, voyez-le là. Écoutez, on a un baril de pétrole autour des 85-86 $. Ça a monté quand même assez abruptement les dernières semaines. Et là, le conflit Israël-Hamas, là, si jamais l'Iran embarque dans le dossier et commence, parce que là, on a vu Israël bombarder une ambassade de l'Iran du côté de la Palestine, du côté du... Palestine, oui, c'est ça. Donc... pourrait dégénérer assez rapidement si jamais l'Iran réplique. Là, vous voyez, là, c'est une poudrière. Et ça, selon les analystes, ça pourrait faire exploser le prix du pétrole. Et là, le pétrole, l'essence, vous voyez, là, c'est une composante qui est directement dans la cible pour mesurer l'inflation directe au pays. Donc, on aurait ça serait directement... Donc, on aurait une inflation qui repartirait vers le haut. Autre chose... l'intérêt hypothécaire, hein? N'oubliez pas que la Banque du Canada mesure l'intérêt hypothécaire. L'impact de l'intérêt hypothécaire pour les gens qui ont contracté des hypothèques. Et ça, c'est directement lié au taux directeur. Donc là, évidemment, si les gens sont en train de renégocier leurs hypothèques à 30-40 % de plus qu'ils l'avaient l'ancien terme, bien, c'est tout ça est lié au taux directeur. Donc, je ne comprends pas pourquoi on calcule dans la formule de l'inflation le taux hypothécaire, donc l'intérêt sur le taux hypothécaire, ce qui est carrément là, une donnée tronquée, selon moi. Parce qu'en excluant cette donnée-là, puis j'en ai parlé la semaine dernière, mais on aurait un taux d'inflation sous les 2% au Canada. Donc, imaginez, on serait déjà dans la cible du 2%. Donc, est-ce qu'on a taponné un peu les chiffres pour essayer de faire perdurer là, le suspense des taux d'intérêt taux directeur quand même là, à 5% depuis quoi? Ça fait 6 mois, là, à peu près 5 ou 6, séances d'affilée là, qu'on refuse de baisser les taux. Et bien là, écoutez, et puis l'autre chose, c'est que l'économie ralentit. Là, la Banque du Canada nous dit, bien écoutez, en deuxième partie de 2024, l'économie va repartir, l'économie canadienne. Mais ce qu'on voit aussi, c'est parce qu'on va baisser les taux. Donc, vous voyez, là, l'économie, ça ne s'invente pas. Là. Les taux directeurs vont baisser, les taux d'intérêt vont baisser, les coûts d'emprunt vont baisser. Et là, ben, ça va donner quand même une étincelle à cette économie canadienne qui tourne en rond. Donc, soyez pas surpris, l'inflation qui pourrait repartir à la hausse au cours des prochains mois. Est-ce qu'on pourrait assister à une baisse du taux directeur de la Banque du Canada dès le mois de juin? Quand même, position assez, non pas controversée, mais quand même opposée ou à sens inverse du consensus qu'on entend actuellement, là. Mais c'est les économistes de Desjardins qui, eux, anticipent 3 baisses de taux cette année. D'autres économistes aussi anticipent entre 3 et 4 baisses, même certains entre 4 et 5 baisses de taux en 2024, malgré tout ce qu'on a pu entendre dans les derniers jours. Donc, baisse de taux dès juin possible. Ça va être à surveiller. Là, l'inflation est à, en fait, l'inflation est à 2,8% au mois de février. On va voir les chiffres de mars prochainement. Cette semaine, la Banque du Canada a décidé statu quo. On laisse ça à 5% taux directeur. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'économie canadienne ne roule pas très bien. On voit le taux de chômage augmenter. On regarde les indicateurs, notamment au niveau de l'inflation. Si on exclut l'intérêt hypothécaire de l'équation, on serait sous les 2%. Et dans les scénarios que la Banque du Canada a donné, les mesures clés, elle nous dit qu'en deuxième partie de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de juillet ou septembre-octobre, avec les baisses de taux anticipées, qu'elle ne veut pas nous dire qu'elle va baisser, évidemment, ben, on aura une accélération de l'économie canadienne, clairement, parce que le premier trimestre n'a pas été très fort. Et premier semestre, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année, ne seront pas très forts non plus. On frôle quasiment, on n'est pas en récession, là, mais on est très flat, là, on est très taux neutre. On a eu 0,6% de hausse en janvier, puis c'est à peu près ça les autres mois. Évidemment, il y avait un rebond, il y avait des grèves au Québec, notamment sur les enseignants, puis il y avait d'autres conflits de travail, d'autres choses là, qui ont un peu partout au Canada, là, qui avaient donné quand même une baisse en décembre, puis peut-être fin de l'année. Mais tout ça pour vous dire que les économistes de Desjardins, eux, sentent qu'il y a, on dit, la prochaine rencontre de la Banque du Canada aura lieu le 4 juin. On a eu une rencontre cette semaine. Et là, la prochaine, ben, mai, il n'y en a pas. Ça va aller au 4 juin et là, ça pourrait être une décision importante. Ça va être à suivre là aussi. Et ce que ça mettrait sur la table, c'est qu'on devancerait les Américains. Donc, on voudrait que l'économie américaine ne soit pas si influente sur le Canada dans la mesure où la politique monétaire, évidemment, il va y avoir des répercussions. L'économie américaine roule à fond de train, 3,3% là, actuellement. Et ils ne sont pas dans un scénario de baisse de taux nécessairement, eux, rapidement. Ça pourrait être le mois de septembre et le Canada devancerait, en ce sens, la Fed pour les États-Unis. Baisse de taux, évidemment, ça serait des baisses quand même timides, là, peut-être de 25 points de base, peut-être penser à 50 points de base à un moment donné. Donc, Desjardins qui s'attend à 3 baisses de taux en 2024 et à partir du mois de juin. D'autres économistes parlent peut-être plus de juillet, mais parle de 4 à 5 baisses, dont Sébastien McMahon de IA Groupe Financier, qu'on reçoit régulièrement dans le podcast. Alors, dans ce contexte-là, soyez pas surpris de voir, oui, l'inflation va peut-être repartir là, en avril. Et après ça, on pourrait avoir une descente importante à tout le moins. Et on le sent, là, l'économie canadienne ne roule pas comme elle devrait rouler. L'essence a monté, c'est l'indicateur, c'est l'éléphant dans la place. Et ça va être à surveiller si un baril de pétrole monte au-dessus des 90 $95. Ça pourrait être un facteur déterminant. Chose certaine, ça sent bon. Donc, baisse de taux à l'horizon. Évidemment, baisse de taux, ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent? Bien, si vous êtes en train de renouveler un prêt hypothécaire, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous devez jouer avec les chiffres qu'on va vous offrir. Par contre, c'est toujours bon de magasiner votre taux hypothécaire. On me dit que c'est plus compliqué que c'était par le passé, évidemment, à cause des problèmes de notariat. Il y aurait de moins de disponibilité chez les notaires. Mais tout ça pour vous dire que préparez-vous d'avance. Faites-vous sortir des taux. Essayez de les geler le plus longtemps possible. Mais évidemment, si on aurait une baisse en juin, on aurait peut-être une autre en juillet. Donc, ça pourrait être très intéressant. Si votre prêt est un petit plus tard cet été, au début de l'automne, ben attendez là, avant de renouveler. Allez jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut aller tout le temps jusqu'au bout là, de ces temps-ci. Là, parce que ça peut jouer d'une journée à l'autre. Donc, baisse de taux à l'horizon. Desjardins en voit. Desjardins, c'est quand même 40% du marché hypothécaire au Québec. Je regarde d'autres joueurs parlent aussi de baisse qui pourrait arriver mois de juin, certains mois de plus mois de juillet, là, fin juillet, il va y avoir une rencontre de la Banque du Canada. Il n'y a pas de rencontre au mois d'août et l'autre va au mois de septembre. Donc, ça sent bon, pas trop d'optimisme, mais quand même, on le sent, là, le pire est fait et on anticipe trois baisses 2024, trois baisses 2025. On pourrait terminer l'année avec un taux, l'inflation à 2,2%. Là. J'ai regardé les analystes. Selon les différentes firmes, les différentes banques d'analyse, selon les différentes idées, comment on dit ça, les écoles de pensée, voilà. Donc, à suivre, l'inflation qui mord, mais pourrait redescendre. Et là, ça serait les signaux pour que les banques centrales puissent aller de l'avant. En Europe, la BCE, la Banque centrale européenne, a parlé d'une baisse en juin. Donc, vous voyez, là, on commence à voir des banques centrales prendre les devants, peut-être précéder les Américains et y aller d'une baisse plus rapide. Alors, ça sera à surveiller. Les hypothèques sur 30 ans sont de retour au pays. C'est une annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral au cours des dernières heures et qui va être incluse là, dans le budget du 16 avril prochain au fédéral. Et c'est notamment sur les hypothèques 30 ans pour les acheteurs de maisons neuves. Alors, on vient de comme faire sauter des verrous. Vous savez qu'au Canada, il y avait des hypothèques sur 40 ans à un moment donné. Après ça, on a réduit ça à 35 ans parce qu'on trouvait que les gens pouvaient... comme ça tenait beaucoup de lousse. Et là, on a ramené ça à 35 ans, on a ramené ça à 30 ans, on a même ramené ça à 25 ans. Actuellement, si vous avez une hypothèque de 30 ans, c'est parce que vous n'avez pas payé le fameux... Vous devez payer le 20% de cash, comme on dit. Et quand vous n'avez pas 20% à mettre sur votre maison pour éviter, là, justement, une espèce d'assurance SCHL et autres, là, bien, vous n'aviez pas droit à l'hypothèque 30 ans. Donc là, on ouvre tranquillement les valves. Et ça, c'est Ottawa, c'était fait beaucoup critiquer à l'époque. D'ailleurs, les agents d'immeubles disaient, écoutez, si vous voulez que les prix des maisons ont explosé, le financement est là. Oui, les hypothèques ont monté, mais éventuellement, le financement va revenir. Parce que le problème, c'est que les gens s'achetaient des maisons à un prix de fou, mettaient ça sur 40 ans, prenaient le taux variable à 1,5 à 1%. Mais là, vous le voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il y a des gens qui se sont fait avoir. Les taux d'intérêt ont explosé. Ça fait en sorte que les gens, le paiement de maison, il y en a beaucoup qui ont dû laisser leur maison, les clés de leur maison aux banquiers. Donc, à partir du 1er août, qu'on dit, également, on va monter le montant qu'on peut sortir, qu'on peut mettre dans nos REER pour, vous savez, vous pouvez aller chercher jusqu'à, actuellement, c'est 35 000 $ dans vos REER pour mettre sur votre maison comme premier paiement, là, cash down. Mais maintenant, on va monter ça à 60 000 $ Et ça, on appelle ça râpé. Là. Et on devait commencer à rembourser au cours des deux premières années le montant du râpe qu'on remettait dans nos REER. Dans le fond, on empruntait de l'argent à nos REER. On se prêtait de l'argent comme ça. Mais on pouvait emprunter jusqu'à 35 000 dans nos propres REER, mais... on monte ce montant-là à 60 000 et on alloue maintenant 5 ans au lieu de 2 ans. Ça, c'est à partir du 1er août. On va pouvoir rembourser à partir de la 5e année l'argent qu'on a pris dans nos REER pour s'acheter une première résidence. Et là, je regardais, il y a d'autres aussi, il y a d'autres modalités là, qu'on va annoncer, notamment sur le CELIAP. Le CELIAP, on peut mettre jusqu'à 40 000 $ hein, dans le CELIAP. On dit qu'il y a 750 000 personnes qui ont ouvert des comptes de CELIAP au cours de la dernière année quand même. Alors, c'est un peu ça qu'on regarde. C'est les mesures qui vont être annoncées là, dans le budget du 16 avril prochain. Donc, vous voyez, là, le gouvernement fédéral ouvre la porte là, pour faciliter vraiment le marché immobilier, l'accessibilité au marché immobilier. Donc, vous allez pouvoir bénéficier là, notamment d'une hypothèque 30 ans. Premier acheteur sur des maisons neuves. Je ne sais pas si on va le mettre sur les maisons déjà usagées ou maisons qui sont déjà construites. Vous pouvez l'avoir le 30 ans, mais il faut mettre 20 % en argent. Alors, on va vous aider aussi parce que là, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 60 000 $ de vos REER. Donc, l'économie que vous avez faite en attendant, là, ben, c'est pas perdu. Vous allez pouvoir l'appliquer sur une maison, un produit qui va vous plaire, condo ou encore une maison neuve. Donc, il y a ça. Et je regardais les taux hypothécaires aussi. Là, ça n'a pas baissé beaucoup, mais quand même, si on regarde les meilleurs taux hypothécaires au Québec, là, un an fixe, ça donne quand même un taux affiché là, 7,84, mais vous avez quand même des prêts possibles chez des agences, des cabinets de courtage là, qui font du prêt, eux autres maisons. Là. Bien, vous l'avez à 6,74, un an fixe, 3 ans fixe, taux affiché 6,94, vous l'avez à 4,99, 5 ans fixe, 4,89, au lieu de 6,79 affiché. Et 7 ans fixe, vous allez à 5,09 versus 7 % affiché. Donc, ça se joue vraiment là, entre le 3 ans, 5 ans. Évidemment, les taux vont baisser là, éventuellement. Donc, encore là, toujours une question d'être confortable avec le taux qu'on a. Des fois, on achète une maison avec une autre personne aussi. Et c'est ce qui fait qu'on ne veut pas trop stresser personne. Donc, dans ce contexte-là, vous le voyez, les taux vont baisser. Mais là, le Ottawa commence à mettre plus de liberté, là, commence à rouvrir les vannes pour les acheteurs de maisons, notamment pour les hypothèques 30 ans. La saison de résultats financiers arrive à Wall Street. Toujours 15 jours après la fin de chaque trimestre. Là, ben, autour du 15 avril. Mais là, on va commencer là, avec les banques américaines. Et là, quoi penser de tout ça? Là? On regarde le marché boursier américain. Quand même, une poussée fin octobre, fin mars, d'à peu près 30-35% sur le S&P 500. Et là, depuis le début avril, on le sent, là, c'est beaucoup plus fragile. Et là, vous avez vu cette semaine aussi, on a eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis qui repart à la hausse. Et là, ça a donné un coup de tonnerre aussi dans les marchés. Mais je regarde depuis le début de l'année, le TSX en hausse de près de 6%. L'économie canadienne ne va pas très bien, mais quand même, le TSX tire son épingle du jeu. Le pétrole, hein? Pétrole et métaux. Alors, il y a une ruée vers les... une re-ruée, comme on dit. Ça re-rue vers les métaux. Et aussi les ressources naturelles. Donc, pour le Canada, là, ça pourrait être une très, très bonne année. Le Dow Jones, depuis le début de l'année, 2%. Et je regarde dans la dernière semaine, même depuis le début du mois d'avril, on est négatif. Dans le cas du S&P 500, 9,6% de hausse depuis le début de l'année. Et tout à peine, bon, on est dans le positif depuis le début avril, là, mais c'est pas grand-chose par rapport au début d'année qu'on a eu, justement. Et le Nasdaq, ben lui, 11,3% d'avancée, 11,4%. Et on ne regarde plus en arrière là, dans le cas du Nasdaq. Alors, ça va être à suivre. Certainement, c'est le prochain mois. Là, on voit beaucoup de changements au niveau des gestionnaires. Là, on le voit, l'énergie, le pétrole a monté. On pourrait encore monter puisque là, la situation au Moyen-Orient qui s'embrase au Proche-Orient, Moyen-Orient. Et là, avec un Hamas-Israël qui s'envenime, puisque l'Iran pourrait embarquer dans le tas, si l'Iran réplique à Israël, on cherche ça, là. On cherche beaucoup la bagarre. Et ça pourrait avoir un impact sur le pétrole. Le pétrole pourrait repartir. L'or aussi, qui est très élevé. Donc, actuellement, là, les analystes sont très partagés sur la suite des choses. Je voyais C'est Morgan Stanley là, qui a publié un rapport aujourd'hui sur le S&P 500 d'ici la fin de l'année. Le S&P 500 était à peu près autour de 5200 points. Bien, eux disent on s'attend à 11 % de hausse d'ici la fin de l'année. Donc, 11 % de hausse, ça nous amènerait un S&P 500 autour des 5700, 5800 là, dans ces eaux-là, vous voyez. Donc, ça sera encore un sommet jamais vu. Le sommet inégalé, jamais inégalé, 5248 à la fin mars. Donc, on pourrait avoir aussi des poches là, comme ça de nettoyage, de vente, d'investisseurs qui décident peut-être d'aller voir ailleurs ou de se mettre sur les lignes de côté. Il faudrait avoir des signaux quand même un petit peu plus... on va voir le début des... de earnings season, on va le voir, là, les résultats des entreprises, ça va tomber, il va y avoir des floppés de résultats. Là, on commence avec les banques, puis après ça, c'est toutes les compagnies qui vont suivre. Et ça va être quand même un élément clé. Évidemment, le gouvernement américain est très endetté, qui est obligé, lui, de réémettre des bons, des obligations. Et là, on hausse les taux. Là aussi, ça fait ça peut jouer. Donc, il y a des investisseurs qui vont chercher des obligations à des taux quand même plus élevés. Là. Donc, peut-être au cours des prochaines semaines, beaucoup de volatilité. Mais c'est très dur là, d'essayer de prédire, trancher au couteau, là, qu'est-ce qui pourrait arriver. L'économie américaine va très bien. On est en année électorale. Et je pense que la deuxième année, là, la deuxième portion de l'année, là, c'est là qu'on va voir vraiment le plein potentiel de cette économie-là. D'ici là, il pourrait y avoir toutes sortes de choses. Évidemment, la géopolitique peut venir jouer. Les troubles faits. Russie-Ukraine, on n'entend plus parler de ça. Là, c'est vraiment le Hamas. Israël, Iran, c'est ça qui inquiète beaucoup les investisseurs. Après ça, ben, on va voir les profits. Si les profits sont là pour les entreprises, ben, ça pourrait donner encore du gaz à suivre. Mais le début du mois d'avril a shaké bien du monde. On est en baisse, évidemment, là, sur les principaux indices, mais à surveiller. Est-ce que le prix de l'or pourrait atteindre les 3 500 $ l'once? Affirmatif, selon certains analystes. Et ces analystes-là disent, écoutez, ça pourrait arriver d'ici un an. Donc, analyste de la firme Yardini Research, Ed Yardini, qui lui affirme clairement que d'ici un an, nous aurons atteint les 3 500 $ l'once d'or. Il fait le parallèle avec les années 70 où beaucoup d'inflation, prix du pétrole qui était en train de flamber, comme on le voit depuis quelques temps. Et lui s'attend à ce que les prix du pétrole flambent l'an prochain, mais surtout d'ici la fin de l'année et l'an prochain. Où en 70, le prix de l'once d'or était passé de 35 $ à 665 $. On avait explosé. Dans le cas du prix de l'or actuel, quand on regarde les graphiques depuis un an, on est autour des 2 000 $. Septembre, fin septembre, je dirais peut-être début octobre, on était quoi? On avait atteint les 1 820. Et depuis, c'est l'ascension. Au moment où je vous parle, 2 375 $. Donc quand même, là, hausse depuis un an de 40 % du prix de l'or aujourd'hui. 2 375, demain, ça pourrait être encore plus élevé encore. Donc, dans son analyse, lui, ce qu'il se dit, c'est que niveau géopolitique, on regarde un peu aller les conflits armés sur la planète. Les produits pétroliers en de plus en plus en demande, mais également très limités dans l'offre. L'OPEC l'a limité et ça va être comme ça encore pour plusieurs mois. Donc, clairement, l'analyste de Yardini Research, il va d'une position. Lui, il avait vu monter ça. Il parlait de 2500 en 2024. Et on est près du lot. Là. On est près de ça. On est à quoi? Là, 2375. Donc, lui, il voit une ascension. Autre chose, ce qu'il dit, c'est que les conflits, notamment avec la Chine, ça ne s'améliorera pas. Évidemment, si Donald Trump entre à la Maison-Blanche, il pourrait avoir beaucoup, beaucoup de coups de gueule. Beaucoup, beaucoup de volatilité, ça pourrait amener justement les marchés à être très, très volatile. Et ça, ben, les investisseurs n'aiment pas trop. Donc, on va aller se réfugier dans l'or comme on l'a toujours bien fait. Donc, c'est un peu ça qu'il voit, là, l'analyste. Donc, ça attend un prix. Évidemment, 3500, c'est son prix dans sa fourchette supérieure. Ça pourrait varier entre 3000 et 3500, mais il précise très bien que le 3500, là, c'est possible. Donc, ça sera à suivre, évidemment, avec le prix de l'or. Le prix de l'argent aussi, hein, ceux qui suivent ça un peu, là. Le prix de l'argent a monté aussi au cours des derniers mois. Dans l'infolette financière Cachemire, j'en avais parlé du prix de l'argent. Il était à surveiller. On est rendu à 28,48 l'once d'or US. Et quand on regarde depuis un an, là aussi un an, ben quoi, on est en hausse de pas tout à fait. On a atteint quoi les 22$ récemment. Là, on était à 28, mais là un an, on était à 25,5, 26. Mais c'est depuis vraiment le début de l'année, même depuis le mois de février, l'argent aussi a explosé. Beaucoup de demandes en Inde sur l'argent. Alors voilà, les banques centrales achètent beaucoup d'or ces temps-ci. Attendez-vous à des hausses salées des tarifs d'électricité au cours des prochaines années. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'énergie, le super ministre, là, mais notamment le ministre d'Hydro-Québec, n'en rate pas une. Là, ce qu'il dit, c'est que les revenus de l'État vont chuter sans une hausse des tarifs, prévient-il. Là, il dit, mais finalement, on va comme plafonner les revenus résidentiels à 3%. Est-ce que ça va être les clients commerciaux, les comptes commerciaux, les commerces qui auront à payer davantage? Est-ce que ça va être les industriels ou ça sera le ministre des Finances? Donc, vous voyez, Hydro-Québec quoi, remet... le profit d'Hydro-Québec, c'est autour de 3,5 milliards l'an passé. Autour d'eux, là, bon an, mal an, on a eu un beau 4,5 milliards en 2022. Mais tout ça était causé notamment par la hausse des prix d'électricité dans le nord-est américain parce que les prix du gaz avaient monté beaucoup et là-bas, le marché de l'électricité marche avec des centrales au gaz naturel et avec la guerre Russie-Ukraine, souvenez-vous, les prix du gaz avaient explosé, donc ça avait fait monter beaucoup les prix d'électricité dans le nord-est et là, Hydro avait profité. On avait exporté beaucoup là-bas, ce qui n'est pas le cas en 2023. Les prix se sont beaucoup dégonflés. Donc là, clairement, Pierre Fitzgibbon le dit, là, ça va être du 3% et on veut revenir à la régie comme par hasard. Imaginez, on avait sorti complètement la régie de l'énergie de l'équation. Et là, Hydro-Québec dit, on pourrait ramener la régie de l'énergie. Ben oui, parce qu'on va avoir des dépenses. Donc si Hydro-Québec a des dépenses en malade, parce que là, on prévoit investir massivement. Là, quand vous regardez le plan de match d'Hydro-Québec, les prochaines années, là, ça va être des... créer là, 8 000 à 9 000 mégawatts supplémentaires d'ici 2035, des nouveaux barrages, des projets éoliens solaires, mise à niveau des turbines. Également, on va construire des lignes de transmission. Tout ça, ça va être des milliards de dollars. Donc, on devra trouver une tête de turc. On devra trouver quelqu'un qui va payer la facture. Donc, on va ramener la régie de l'énergie. Et avec les taux de rendement reconnus, ben, on va passer la facture aux contribuables, on va passer aux consommateurs d'électricité du Québec. Ça a toujours été le cas. Donc, voyez-vous là, comment la CAQ va nous jouer la régie de l'énergie quand ça fait son affaire. On avait sorti hein, la régie de l'énergie et on disait que finalement, ça allait être à l'inflation. L'inflation est montée à 8%. Notamment, François Legault et Jonathan Julien, à l'époque, disaient l'inflation à 5-6%, on ne verra jamais ça. Alors, il y a un peu de ça. Est-ce que le nucléaire aussi pourrait faire partie de l'équation? Je pense que oui. Et là, on a quand même dans la cour l'ancienne SNC-Lavalin, Atkins Realis, là, qui on a une division nucléaire. On vend les camps d'eau et on vend des réacteurs à beaucoup de pays. Donc, Atkins Realis pourrait venir en aide, évidemment. Michael Sebia connaît très bien SNC-Lavalin, il l'a dirigé. Donc, il était à la caisse de dépôt, a investi beaucoup massivement dans l'entreprise. Et l'ancienne SNC-Lavalin va très bien là, depuis qu'on a recommencé à faire de l'argent, notamment avec le nucléaire. Donc, voyez où on en est. Et c'est toutes ces pensées magiques d'Hydro-Québec là, de brancher les voitures électriques puis aller-retour dans la batterie des gens, comme si ça n'allait pas inquiéter les propriétaires de ces voitures-là. Vous le voyez, les prix des batteries là, actuellement. Il y a des voitures électriques dont on doit renouveler. Les prix des batteries coûtent 30, 35 000 $ 40 000 $ Et là, on se dit tout bonnement, on va venir jouer dans vos batteries in et out. On va venir chercher du courant double sens. Encore là, une fois, Hydro-Québec rêve encore beaucoup. Là. On dit qu'on aurait accès à 7 000 MW de cette façon-là. Je ne sais pas, mais moi, si j'ai une voiture électrique, je ne laisserai pas certainement pas Hydro-Québec venir jouer dans dans ma batterie. D'ailleurs, les voitures électriques, là, je ne sais pas si vous avez vu les assurances pour les voitures électriques, les prix sont en train d'exploser justement parce que les coûts de remplacement des batteries amènent des sommes importantes pour les assureurs. Et là, on est en train de réviser tout ça. Donc, les coûts des assurances qui explosent au Québec pour les voitures électriques, notamment dû au coût des batteries. Et là, Hydro-Québec nous dit on va venir jouer dans vos batteries in et out comme ça. Donc, ça, c'est beaucoup d'improvisation actuellement chez Hydro-Québec. On va t'en suivre, mais clairement, la facture devrait être assumée. Là. Vous le voyez au niveau commercial, c'était 6,2% au 1er avril 2023. Là, au 1er avril 2024, ça a été 5,1%. Donc, les commerces vous refilent cette facture-là, ces hausses-là salées par les produits et services qu'ils vendent aux Québécois. 3% du côté résidentiel pour les Québécois. Et les industriels, eux, ben c'est quoi là? C'est 4 cents, 4 cents et demi, 5 cents le kilowattheure. Donc là, pour avoir beaucoup de turbulences pour les tarifs d'électricité au cours des prochains mois, prochains trimestres au Québec. Encore beaucoup d'optimisme sur le prix du Bitcoin. On s'en vient sur le halving là, au cours des prochains jours. On va diminuer de moitié la récompense qu'on offre aux mineurs. Les mineurs de crypto-monnaie qui sont, en fait, de Bitcoin qui sont essentiels là, à la chaîne de valeur du Bitcoin. Là, il y a quand même beaucoup d'optimisme. Il y en a qui ont déchanté. Là, je regarde le prix du Bitcoin autour des 70 000, 71 000. Dépendant quand vous le regardez. On a atteint à la mi-mars les 73 000. Là, il y a des analystes qui regardent aller ça. On pourrait peut-être atteindre les 80 000. Mais évidemment, il y a des optimistes, il y a plutôt des réalistes. Il y en a aussi des très pessimistes. Tim Draper, lui, c'est un multimilliardaire. Je pense qu'il vaut 2 milliards de dollars, donc 2 000 millions. Et lui, voit le Bitcoin à 250 000 $ d'ici la fin de l'année. Très optimiste, évidemment, là, Tim Draper. Bon, ne cache pas, lui, il est bullish, détient beaucoup de Bitcoin et lui, pour lui, c'est la mère de toutes les cryptos. Et on n'a rien vu avec le halving. Selon lui, c'est mathématique. Si on diminue de moitié la récompense qu'on donne, mais également, ouais, actuellement, là, on émet 900 Bitcoin par jour qu'on donne en récompense selon le protocole. Et actuellement, il y a 19,6 millions de bitcoins en circulation. Il n'y en aura pas plus de 21 millions en 2140. Et le halving qui s'en vient dans les prochains jours, on va diminuer de moitié ce qu'on émet par jour en termes de bitcoins qu'on donne aux mineurs pour faire tourner le réseau. Donc, on va passer de 900 bitcoins par jour à 450. Donc, c'est très, très mathématique. Donc, il y aura moins de bitcoins en circulation. Et selon Tim Draper, ben, tout ça fait en sorte que ça va avoir, quand on a une demande forte pour un produit qui va être limité, encore moins, on va émettre moins de Bitcoin par jour. Donc, ça va créer une espèce de pression goulot sur le réseau et ça va créer une demande pour le prix et le prix va augmenter. C'est ce qu'ils pensent. Également, j'ai entendu les gens de Marathon Digital qui sont eux, je pense qu'ils sont un des plus gros mineurs, entreprise de minage de Bitcoin de la planète, entreprise américaine cotée à la bourse. Et eux disaient, s'attendaient à un après-halving un peu décevant. Eux disent qu'on pourrait voir là, justement le prix du Bitcoin peut-être rechuter et pour avoir un repositionnement des joueurs pour par la suite, pendant l'été, une reprise. Donc, voyez, il Il y a toutes sortes d'analyses possibles. Il y en a des très optimistes, il y en a des très pessimistes. Donc, à suivre, au cours des prochains jours, on va avoir un halving. Et ça, suivant une période comme ça, de réduction de moitié de ce qu'on offre en récompense aux mineurs, bien, les mois suivants, là, le prix du Bitcoin a tendance à prendre l'altitude. Et là, à un moment donné, c'est comme une machine de guerre infernale. Donc, ça sera à suivre. La dernière fois, bien, on l'avait vu. On l'avait vu prendre de l'altitude. Donc, Tim Draper, qui demeure très optimiste sur le Bitcoin, il le voit à 250 000 $ d'ici la fin de l'année. Semaine pas facile à la bourse, mais quand même, il y a des résultats intéressants. On va jaser des titres les plus performants de la semaine. Oui, ça a brassé, mais il y a eu quand même des titres qui se sont démarqués au cours de la dernière semaine, tant du côté de Toronto que du côté de Wall Street. Et là, je regarde un peu ce qui retient l'attention là, depuis un certain temps. Vous le voyez au Canada, là, c'est tout ce qui est ressources naturelles, les mines, les métaux. Le pétrole, l'or, c'est un peu la sauce canadienne là, à la bourse de Toronto. Donc, Wheaton Precious Metal, cette semaine, 6,2% de hausse. Cameco, on en parle depuis un certain temps. Je n'avais parlé dans l'infolette financière il y a quelques mois. 5,3%. First Quantum Minerals, 5,2%. Barrick Gold, dans l'or, 4,7%. Tech Resources, 4,5%. Constellation Software, 4%. Tourmaline Oil dans le pétrole, 3,4%. Nuvista Energy, pétrole et gaz, 3,3%. Agnico Eagle Mines, 2,8%. Thomson Reuters, agence de presse notamment, mais agence financière, 2,5%. Dollarama, 2,3%. Et TELUS, 2,3%. C'est un peu ça. Couche-Tard, 2,1%. C'est un peu ce qui a été... les titres les plus performants de la semaine, notamment au Canada, aux États-Unis, Alpine Immune Science. On fait des thérapies, notamment là, pour le traitement contre le cancer. 82% de hausse cette semaine. Palo Alto Networks, 7%. GE, 6,6%. Google, 5,9%. Nvidia, 5,5%. Snowflake, 5,5%. Taiwan Semiconductor, gros projet de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Une nouvelle usine, 5,5%. Coinbase, 5,4%. Amazon, 5%. Broadcom, 4,9%. Alibaba. Alibaba pourrait surprendre, d'ailleurs, je vais en parler dans les foulettes financières. Une analyse, 4%. Costco, 3,9%. Apple, 3,7%. Nike, 3,3%. Et Qualcomm, 3,2%. Voilà les titres les plus performants de la semaine du côté de Toronto et du côté du... des États-Unis de Wall Street. Les marchés boursiers ont beaucoup monté depuis quelques mois. Je regardais le S&P 500 entre la fin du mois d'octobre et la fin mars. On parlait d'une montée de 25%. Et là, depuis le début avril, on sent vraiment là, une hésitation. Pour en discuter, le conseiller financier Frédéric Turcotte est avec nous. Comment ça va, Frédéric?
Salut, Pierre. Ça va très bien, merci.
Oui, les marchés ont beaucoup monté. Il ne faut pas se décourager. Il y a des gens qui vont dire « je vais attendre que ça replante ». Souvent, ça ne replante pas. Là, t'sais. Il peut y avoir des poches de décompression, mais il faut rester investi dans le marché.
Ah, tout à fait. Écoute, j'entends ça, Pierre, chaque semaine. C'est trop cher. Je ne veux pas investir là. Ça ne marche pas. On a manqué le bateau. On va attendre. Alors, ça, c'est une des jobs des conseillers financiers que c'est à chaque fois qu'on atteint des sommets ou des montées comme on a eu dans les derniers mois, comme tu l'as illustré, oui, il y a des petites baisses 5-10% des fois de marché. Là, c'est des corrections, des prises de profit. Mais investir quand le haut du marché, on est dans le haut du marché, ça peut être intéressant quand même. Et j'ai sorti deux graphiques de JP Morgan Asset Management à travers les gens de fidélité qui nous ont fourni ça. Et ça montre quelque chose de vraiment intéressant. Ça dit, depuis 1950, Le Standard & Poor's 500, là, on parle seulement du marché américain, qui est quand
Oui.
même le plus gros marché. Donc, depuis 1950, le plus haut sommet a été atteint toujours, a été atteint 6,6 fois. Donc, il y a 6,6 fois de jour où le marché est à son sommet à vie. Okay? Alors, c'est quand même pas un si gros chiffre que ça. Mais par contre, sur le nombre de jours aussi, le plus haut sommet fait un plancher pour presque 30% des journées. Donc, à 29,6%, ça constitue le marché, le plancher sur lequel le marché va continuer de monter. Et là, c'est ce qui est le bout qui est vraiment intéressant, c'est le rendement du marché par la suite, une fois que on rembarque dans ce plancher-là. Alors, c'est certain qu'acheter dans un creux de marché, on s'entend que c'est ça l'idéal et c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours facile à voir, puis ce n'est pas toujours facile
Ben,
de
c'est pas
timer le
toujours.
marché.
Ouais, ça est arrivé en 2008 quand il y a le marché a crashé de 50%. C'était une crise financière incroyable. Puis
Exact.
2020 avec la COVID, à part ça a toujours monté, là.
Exactement. Mais puis, alors, donc, si on essaie de jouer les devins, de se dire on va attendre le prochain cru, on manque le bateau.
Ben oui.
Alors, sur le rendement cumulatif sur 3 ans du Standard & Poor's 500, si tu as acheté le plus haut dans le marché, bien, tu as fait 48,1 % versus 42 %, 40 % dans n'importe quel autre moment. Donc, 48 % si tu as acheté sur le plancher qui s'est fait avec les sommets, le nouveau sommet atteint, ou si tu as acheté n'importe quand, ton rendement est à 40 % sur 3 ans. Sur 2 ans, c'est encore là de rendement cumulatif, 28,9 % si on entre au sommet, puis à n'importe quel autre moment où tu embarques ton argent dans le marché, tu as fait 25 %. Donc, ouais, c'est quand même une différence importante pour quelqu'un qui achète toujours sur le haut du marché. Alors, donc, on s'entend, comme je l'ai dit, que le cru historique, c'est toujours plus le fun, mais c'est vraiment une statistique intéressante pour voir que même si on achète quand le marché est cher, on réussit quand même sur le long terme. En fait, là, sur 3 ans, 2 ans, les statistiques, mais
Oui.
sur le long terme, on réussit quand
Ah,
même à
c'est
tenir.
sur le long terme, c'est encore plus élevé parce que tu as manqué les journées payantes.
Exact, c'est ça qui fait
Les
la
re parce
différence.
qu'il y a des journées payantes, là, vous n'avez pas idée, quand tu manques deux, trois journées payantes dans l'année ou dans une période de temps très serrée,
Ouais.
oublie ça, tu ne pourras pas te refaire.
L'autre tableau que j'ai sorti, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt. Bon, on sait qu'ici, en Amérique du Nord, Canada, ça fait depuis juillet 2023 que les taux ont arrêté de monter. Si on arrive bientôt presque à un an. C'est quand même incroyable d'un an de plateau de hausse de taux d'intérêt. Et là, si on regarde ça historiquement avec les données des périodes 88-89, 94-95, 2015-2018, puis là, on fait un graphique, tes auditeurs, il faut qu'ils visionnent ça. On fait un
Ouais.
graphique. À l'horizontale, c'est les mois de progression du marché et à la verticale, c'est le rendement. Alors, on part de zéro c'est la dernière hausse. Donc, juillet 23, presque un an maintenant. Et là, on regarde les périodes que je vous ai mentionnées où il y a eu cette fin de hausse des taux. Et les graphiques sont tous dans le positif, ça monte. Et puis, nous, notre période, on a 9 mois de fait à peu près. Donc, on est à 22, 23. On est en train de suivre cette tendance-là. Donc, une fin de hausse de taux, ça veut dire un marché boursier, généralement, si on réfère aux périodes passées,
Ouais.
de façon positive pour les actions. Puis, la même chose pour les obligations aussi. On se dit toujours, est-ce que les obligations vont finalement monter après un arrêt de hausse des taux? Encore, si on regarde les périodes, puis je t'ai envoyé les graphiques, Pierre, tu peux les voir, les commenter. Si on regarde les périodes subséquentes là, de fin de hausse de taux, encore celle dans laquelle nous sommes présentement, on suit une tendance à la hausse, peut-être moins évidente un petit peu, mais on voit quand même que l'effet de la fin de la hausse des taux sur le marché obligataire aussi, c'est positif. Alors, donc, tous ceux qui ont peur de rentrer dans le marché, que ce soit obligataire ou des actions, parce qu'on est haut, on est dans un contexte particulier là, de fin de hausse de taux déjà depuis plusieurs mois. Eh bien, je pense qu'il faut quand même considérer ces données-là historiques qui ne sont pas nécessairement les données du futur, mais quand même qui nous donnent une très bonne indication sur ce qui peut arriver.
Oui, puis tu peux au pire aller, si le marché baisse, tu peux en racheter pour faire baisser ton coût d'acquisition, là.
Exact. Oui, tout à
T'sais,
fait.
c'est ce que les conseillers financiers disent de faire aussi, là.
Oui.
Conseil de faire. Donc voilà pour cette peur d'investir dans le haut du marché, où on pense que c'est un haut de marché, là, évidemment. Les meilleurs et les pires fonds négociés en bourse pour le premier trimestre de 2024.
Oui, bon, tu l'as mentionné en introduction, le marché a performé depuis octobre de façon incroyable. Alors, écoute, je me suis intéressé à aller voir ce que les fonds négociés en bourse, les ETF, ont donné dans le premier trimestre, donc les 3 premiers mois de l'année 2024. Alors, on parle souvent aussi, toi et moi, que ceux qui redécollent rapidement, c'est les small cap. Hein. La définition de small cap aux États-Unis, là, c'est en bas de 3,5 milliards de capitalisation boursière. 3,5 à 9, c'est mid cap. Puis en haut de 9 milliards de capitalisation boursière, c'est des large cap, là, les grandes compagnies que tout le monde connaît. Alors, celle qui a performé le mieux dans les premiers 3 mois de l'année, c'est un indice qui regroupe 80 compagnies. C'est Invesco qui fait ça. C'est Small et Mid Cap du Standard & Poor's. C'est des 80 compagnies de qualité qui a donné un rendement de 24,34 %. Les deux autres le suivent à 23 %, 22 %. Donc, ce sont des fonds, des indices basés, faits par la compagnie Invesco. Et donc, qui ont donné quand même un rendement sur 3 mois. Donc, dans une diversification de portefeuille, le small et le mid cap doivent être présents. Et c'est quelque chose qui doit donner un rendement lorsqu'on est dans un retour. En fait, on n'est pas caractérisé la dernière période comme étant un retour de l'économie en force, mais ça a été un peu quand même le cas. Aux États-Unis, la consommation est là, le chômage est bas. Alors, ces indices-là ont très bien performé. Puis, je suis allé voir en dessous du capot un peu pour comprendre un peu quelles compagnies se retrouvent dans ces 80 compagnies-là de cet indice d'Invesco. Alors, il y en a très peu de connues. C'est toutes des compagnies. La première position, c'est Williams Sonoma. Ils font des produits de cuisine, des machines à café, des meubles, des accessoires de maison. Donc, il y a la première compagnie qui compose cet indice-là. Après ça, deuxième, c'est une solution de transport aux États-Unis, Manhattan Associates. La plus connue dans les 10 premières, là, c'est Pierre, tu dois la connaître certainement. Si je te dis la Panthère Rose, qui dans les matériaux de construction, dans la laine minérale,
Oui.
Owen Corning, donc c'est la compagnie qui fabrique cet isolant-là, qui fait partie donc de cet indice, qui est une des 10 premières positions donc de l'indice. Et donc c'est des compagnies que l'on ne connaît peu, pas du tout, mais qui sont regroupées dans un indice, un peu comme dans un fonds mutuel, et qui ont donné quand même un rendement intéressant. Du côté des pires, les pires, c'est ce qu'on discutait il y a quelques années, toi et moi, ARK Innovation. Alors là, ils ont fait moins 7 % de rendement dans
Ce
le
qui n'est pas
premier.
si pire parce qu'elle a déjà fait pire que ça.
Ah oui, tout à fait. Il a tombé en bas de la chaise plusieurs fois avec des baisses plus importantes, mais moins 7, c'est quand même important, alors que le reste du marché montait. Et le deuxième également, c'est moins 3, c'est le ARC, le ETF qui couvre le secteur de l'aérospatiale et de l'innovation à moins 3,7. Alors, puis la liste descend comme ça. Donc voilà, je voulais juste te présenter un petit peu donc les indices, qui restent quand même un très bon outil, peu coûteux hein, et fiscalement aussi intéressant pour les investisseurs pour suivre des secteurs ou des géographies particulières. Et ceux qui pensent que le marché va battre des indices, va battre des gestionnaires de fonds, bien c'est souvent des gens qui sont investis dans des indices et dans le marché complètement sans passer par les fonds mutuels.
Voilà, le grand patron de JP Morgan, M. Diamond, a tonné cette semaine, fait paraître, comme il fait à chaque année, là, sa lettre aux actionnaires de la
Exact.
banque. Et
Oui.
quand même, Jamie Dimon, ben, c'est quelqu'un qui est influent. Il est là depuis quoi? Plus de 20 ans, je
Ah,
pense, à la tête
c'est
de la
fait.
banque.
Oui, ça en fait des années. Écoute, il est là depuis 2006, ça, Pierre.
Et très intéressant, là, je veux dire, lui, il a quand même parlé là, que les taux d'intérêt allaient remonter éventuellement, peut-être. Ce qu'on a vu aujourd'hui,
Oui.
il parle peut-être même d'une rehausse des taux de directeur, des taux des grandes banques centrales, puis il parle aussi de l'intelligence artificielle.
Oui, tout à fait. Écoute, c'est un bonhomme, il a 68 ans, il vaut 2,2 milliards, président de JP Morgan Chase, qui est la plus grosse banque au monde, plus grande américaine et la plus grosse au monde en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est énorme comme banque aux États-Unis. Alors, forcément, c'est des gens qui ont une place importante dans le discours économique aux États-Unis, sont souvent interviewés par les réseaux financiers pour parler, donner leur opinion. Très souvent, ils se trompent, hein, parce qu'on sait que l'économie, ce n'est pas une science exacte.
Exact, ouais.
On peut errer complètement dans nos prédictions. Mais par contre, ce qui est intéressant de démontrer, de voir, bon, il y a toute une équipe derrière lui, là, c'est pas lui, je crois bien, qui a écrit les 58 pages que je me suis tapé. Mais il y a toute une équipe quand même qui réfléchissent et ils donnent des grandes directives un peu et ils sont souvent des précurseurs bon, oui, il y a les compagnies en techno qui sont des innovateurs, qui font plein de nouvelles choses pour faciliter la vie et puis pour améliorer notre sort. Mais les banques, c'est quand même, on a quand même un portrait d'une institution un peu plus pépère, un peu plus qui va suivre la vague, mais qui va quand même avoir des pratiques de gestion très classiques et tout ça. Alors, quand on va lire un peu ce que Diamond écrit dans son rapport, dans sa lettre aux actionnaires, son premier sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors, écoute, il dit dans ça que, là, j'ai noté quelques extraits intéressants. Il dit, là, présentement, l'intelligence artificielle est utilisée à l'intérieur de la banque de plus de 400 façons différentes. Donc, de la détection de fraude à rechercher des nouvelles stratégies de marketing. D'utiliser pour le service client, le développement de logiciels, la cybersécurité. Alors, c'est déjà, il y a une armée de monde qui travaille en intelligence artificielle à l'intérieur de la banque et en fait du groupe. Et donc, ils ne savent pas encore, bien sûr, à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va changer notre vie courante, mais il dit, et là je le cite, on sait pas, bien que nous ne connaissons pas l'effet total ni de la vitesse précise à laquelle l'intelligence artificielle changera notre activité, ni comment elle affectera notre société dans son ensemble, nous sommes totalement convaincus que les conséquences seront extraordinaires et peut-être même aussi transformationnelles que certaines inventions technologiques majeures. Des centaines d'années écoulées, pensez à l'imprimerie, à la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique, l'Internet, entre autres. Alors, pour ce bonhomme-là, donc, qui donne son avis, c'est vraiment quelque chose de très gros et c'est pas pour rien qu'il le place. Bon, il va commenter aussi l'actualité économique et tout ça avec la hausse des taux, le ralentissement que présentement on n'a pas encore aux États-Unis, l'inflation qui demeure. Alors, mais c'est intéressant de voir un peu sa perspective pour voir
Oui.
comment ça s'amène dans une économie puis l'impact de cette intelligence artificielle-là dans nos vies.
Ouais, puis lui, il a 68 ans, là. Pensez-y, il vaut 2,2 milliards. Il dirige la plus importante banque au monde et la plus importante banque aux États-Unis. Prêt s'en aller, là, prendre sa retraite. Je sais qu'il y a un
Oui,
plan de
effectivement.
succession, mais il aime encore son travail.
Ah, tout à
Il
fait.
aime
Oui,
donner son opinion. Il aime être influent. Donc,
oui.
c'est vraiment un cerveau, là.
Ouais. Puis, deuxième sujet aussi, que je peux passer à côté de t'en parler un peu, c'est tout récent, là. C'est Google qui a lancé. C'est encore des nouveaux outils dans la course à la montre un peu contre
Ouais.
les autres joueurs qui ont des plateformes d'intelligence artificielle qu'on commence de plus en plus à utiliser. Alors, on en a parlé, je pense, bien dans les semaines passées de ça. Mais ils ont lancé le cloud AI. Alors, ils ont upgradé leur solution Gemini et ils ont aussi lancé des processeurs qu'ils appellent Axion. Alors, encore là, c'est vraiment impressionnant de penser comment Google, qui est notre outil de recherche, le bon vieux Google Search dans notre utilisation quotidienne sur nos téléphones et sur notre ordinateur. Mais écoute, ça va passer à une deuxième étape très bientôt, là. Alors, ils vont vraiment intégrer les fonctions d'intelligence artificielle à même leur solution et toute la gamme des produits que Google a.
Ah, ça va exploser, là.
Écoute, le Google Meet que plusieurs utilisent, qui est la version Zoom un peu, le compétiteur de Zoom ou de Teams avec Microsoft, donc le Google Meet va intégrer très bientôt là, à 10 $ par mois. Ça risque de faire mal un peu aussi à la compétition, mais c'est très bien pour nous consommateurs que nous sommes de ces produits-là. Alors, ils vont intégrer les capacités d'intelligence artificielle pour faire, ça va s'appeler AI Meetings. Et donc, ça va intégrer des fonctions de bavardage quand tu chattes avec tes collègues en ligne directement en même temps que tu parles, synthétiser toutes les discussions qui vont être prises dans un Zoom ou un Team, un Meet, comme on l'appelle, l'analyse de la discussion, faire la traduction simultanée. Tout ça va se faire pour 10 $ par mois dans une prochaine version très bientôt là, de Google Meet grâce à l'intelligence artificielle. Alors, imagine un peu, donc, ta propre présentation, tu présentes devant 10 personnes, Pierre. Ta propre présentation va être faite par l'intelligence artificielle. Tu vas en parler avec 9 autres de tes collègues et qui vont apporter du input à ta présentation. Tout ça va être synthétisé par l'intelligence artificielle. Et après ça, traduit simultanément si tu as des gens qui parlent d'autres langues. Et tout ça, par la suite, un sommaire qui est fait et puis présenté à tes patrons si c'est le cas dans ta business que tu as ce travail-là à faire. Alors, on est en train de complètement de penser à changer notre travail dans les entreprises, à améliorer la productivité grandement. Ça va améliorer aussi. Et quand on améliore la productivité d'une entreprise, on améliore sa rentabilité. Alors, c'est le lien qu'on peut
Oui,
faire avec la bourse.
c'est ça. Puis il y a de la valeur ajoutée. Parce que là, ton employé qui ne faisait que prendre des notes sur des meetings, ben, tu vas pouvoir peut-être le mettre à autre chose, peut-être à vendre
Exact.
et
Oui.
rapporter davantage de dollars dans l'entreprise, donc être plus profitable,
Oui.
rentable. Donc, c'est un peu ça, là. C'est ce qu'on voit.
Exact. Oui.
Tu sais, beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça va améliorer de beaucoup des métiers et ça va amener une création de nouveaux emplois qu'on n'a pas encore vus
Ah,
aujourd'hui.
tout à fait, tout à fait. C'est certain qu'il y a des secteurs qui vont un peu peut-être être transformés, comme tu le dis.
Oui.
Un autre produit que Google lance, ça s'appelle Google Vids, pour faire des vidéos. Tu deviens un monteur vidéo de toi-même. Alors, avec l'intelligence artificielle, il va aller chercher les photos, les vidéos, les textes, lire les PDF, qui est de l'information non organisée, nécessaire, pas toujours. Et alors, il va ramasser ça. Il peut faire une trame narrative, ajouter des images externes qu'il va aller chercher à l'extérieur de ton environnement de travail ou sur ton disque dur. Et tout ça, grâce à l'intelligence artificielle, peut faire une vidéo, une présentation, absolument en claquement de doigts, dans quelques minutes que ça peut se faire, ce travail-là.
Exact.
Alors, on voit donc les compagnies qui, en plus de profiter de lancer des microprocesseurs, des GPU très avancés, parce que chacune de ces grandes compagnies-là, Google, Microsoft, Apple, le font. Donc, se servent, et dans la présentation aussi de Google, ils parlent beaucoup de Nvidia. Présentement, ils travaillent avec beaucoup, beaucoup de microprocesseurs, de la capacité de calcul de Nvidia, mais ils vont quand même aussi développer leur propre
Oui.
processeur.
Ouais, fait que
Et
Google, ça va être un titre à surveiller, là, hein,
Oui,
clairement, là.
tout à fait. Et tout ça, bien écoute, ça amène donc du profit de plus pour ces entreprises-là, des nouveaux produits, des nouvelles solutions que d'autres entreprises, d'autres clients vont utiliser. Tout ça dans le cloud, dans le nuage. Et donc, c'est vraiment une période encore intéressante pour les gens qui suivent la techno et qui veulent bénéficier de ça dans des titres boursiers, dans des indices qui couvrent ce secteur-là.
Voilà, Frédéric, on doit dire que là, on doit mettre nos auditeurs en garde, hein? On n'a pas de conseils financiers ici, là, dans
Ben
ce
non,
temps de
écoute, tout ce qu'on
jaser.
discute, on travaille, je prépare ça, donc à titre de conseiller, mais auprès de Valeurs Mobilières Peak, mais est-ce que c'est des sources fiables et pertinentes? Et ce qu'on discute aujourd'hui, c'est d'ordre général et ça s'avère incomplet par rapport à votre situation personnelle. Ce sont mes commentaires et non pas des conseils d'investissement et ça ne reflète pas ce que Valeurs Mobilières Peak peut penser. Ils ne sont pas responsables du contenu de mes commentaires, Pierre.
Voilà, mais si on veut des conseils financiers, t'en fais, là. On peut te
Oui.
rejoindre sur ton site web, frédéricturcotte.com. Tu fais du Zoom,
Exactement.
hein, aussi?
Oui, on travaille en Zoom, on se rencontre et puis on discute un peu des portefeuilles. Les gens, je leur demande les devoirs, je leur dis envoyez-moi vos relevés pour me donner une idée de ce que vous avez, où vous en êtes. Et puis après, si on discute, on pourra voir qu'est-ce que les gens, où en sont dans leur vie, leur famille et leur situation financière générale. Et je leur donne un avis. Et puis après ça, bien, s'ils sont intéressés, s'ils aiment ce que je raconte, bien, ils peuvent venir avec moi. Ça me fait plaisir de grossir ma clientèle encore avec mon fils qui s'en vient travailler avec nous. Donc, on a des bras de plus là. Aussitôt qu'il termine son université, on va le mettre à la tâche, n'inquiète pas.
Qu'est-ce que tu vois ces temps-ci? Qu'est-ce que tu vois comme tendance, les gens qui veulent, qui ont des placements éparpillés, qui ont essayé de gérer tant bien que mal leurs placements personnels, là, boursiers et autres, obligataires, puis là, à un moment donné, ils comprennent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, hein, on le voit ça.
Bien, oui, c'est certain que les gens parfois, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment un peu, donc qui écoutent entre autres ton podcast, puis qui ont de l'intérêt à suivre la chose financière. Mais la très grande partie n'ont pas vraiment le temps, pas l'intérêt. Ils se sont essayés très souvent un petit peu à la bourse. Ils ont fait.
Sont faites battre, sont faites donner une volée, oui.
Ouais, parce que c'est difficile, hein. On a déjà parlé des biais cognitifs, là. Quand c'est le temps de vendre, prendre des profits, si tu veux faire un peu plus du swing trading dans tes positions, comment tu fais une base solide d'un portefeuille? Comment est-ce que tu réussis à te dire, bon, je me ferai pas trop battre dans le marché sur les prochaines années? Comment déconnecter? Des fois, je le dis aux gens, allez pas voir vos relevés dans les périodes où ça brasse un peu plus, là. Je leur dis, allez pas voir vos relevés à tous les jours, allez-y à tous les 6 mois, puis vous avez des très grandes chances qu'à tous les 6 mois, vous allez être heureux de voir les résultats que la bourse vous a apportés.
Non,
Mais
effectivement.
c'est pas juste ça aussi, hein. C'est la gestion du passif, c'est la gestion des hypothèques de ta maison, ton régime épargne-études, ton CELI, comment est-ce que tu es proche de la retraite. Donc, il y a une série de questions et de choses qui touchent le monde financier et c'est notre travail à nous d'apporter des réponses et d'aider, accompagner les gens là-dedans.
Oui, puis votre travail, c'est d'optimiser tous ces produits financiers-là
Oui.
pour que l'épargnant, lui, il arrive à retraite puis il ne soit pas complètement devant rien, là.
Oui, puis la retraite qu'on repousse, on dit aux gens, arrêtez pas de travailler, prenez le temps de réaliser peut-être un deuxième type d'emploi une fois que votre carrière principale est terminée, parce que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Alors, c'est le genre de conseil, c'est le genre de situation qui s'adapte qui est différent pour chacun, mais qui fait l'objet de discussion quand on a un conseiller financier dans sa vie.
Voilà, Frédéric Turcotte, merci beaucoup. On se reparle prochainement. Bye.
Plaisir, Pierre. Salut.